Viens, petite fille, dans mon comic strip. Viens faire des bulles, viens faire des...
Oui.
Des...
Clip, crop,
des...
Bang,
des...
Blanc.
Et des...
Zip, shabam, pow, blanc, whiz.
Bonjour, vous êtes bien sur Radio B.
Le western.
Ah, que de souvenirs. D'abord, bizarrement, si, nous sommes sur la radio, mais c'est d'abord au cinéma et à la télévision. À l'époque, d'une seule chaîne, oui, je suis un vieux monsieur, nous donnait un western tous les dimanches après-midi. Les John Wayne, Alan Ladd, Audie Murphy, qu'on connaît pas assez. Ah, Anne, j'ai surprise. Il était si petit qu'il fallait qu'il ait un tabouret pour monter sur un cheval. Voilà. Bon, n'importe. Et qu'on sort, il n'y en avait pas. Mais nous sommes sur Radio B et nous parlons de bande dessinée. Et nous allons forcément discuter du western. Bizarrement, franco-belge. Belle adaptation, hein, qui nous a bercé à travers les revues de BD. Je parlerai par exemple de Pilote, etc. Une relecture d'une histoire très américaine, parce que l'Europe n'a pas le même regard sur l'histoire américaine. Pas tout à fait. Ou une autre interprétation. Donc c'est une belle relecture. Et là, qu'est-ce qu'on fait ? On monte à cheval, on y va ?
Oui, on monte à cheval, voilà. Et on y va.
Et on va écouter un grand monsieur.
Comme dans un film noir, un jeune couple embarqué dans une sale histoire. Ils veulent ficher et rechercher. La vie les a changés. En marginaux blessés, en cavale, changeant chaque soir.
Bonjour Eddie, si tu nous écoutes.
C'est quand même une belle chanson. Bien sûr, c'est un fan de Pitbull.
Voilà, nous on est fan, complet.
Oui, voilà.
Et c'est une super introduction. Puisqu'on va passer directement...
Remarquablement choisi.
Oui, tout à fait. Et on va passer un des plus grands héros de BD franco-belge.
Oui.
Qui est dessiné par Monsieur Giraud.
Par Monsieur Jean Giraud.
Ouais.
Et quel est le scénariste ?
Monsieur Charlier, forcément.
Oui, Monsieur Jean-Michel Charlier.
Qui a fait énormément de scénarios de BD.
Oui. Exactement, oui, qui est un grand scénariste de bande dessinée, né en 1924, mort en 1989.
Alors, cite-moi d'autres personnages qu'il a scénarisé. Bob Danny.
Ah oui,
par exemple,
je l'avais, oui, effectivement.
Mais je suis un garçon, donc je me rappelle Bob Danny.
Mm-hmm, qui se passe durant la Seconde Guerre mondiale.
Mm-hmm.
Oui.
Voilà, donc on a pris, j'allais dire, presque au hasard, un album de Blueberry, donc dessiné par Giraud, scénarisé par Charlier, qui s'appelle L'Aigle solitaire.
Oui.
Alors, c'est la première période. Excuse-moi.
Ah non, mais je t'en prie, j'allais t'interrompre avec des chiffres.
Oui,
je te laisse commencer.
Des chiffres.
Voilà.
Donc, c'est quand même, je dirais frontalement, quand on regarde. C'est quand même très serré comme graphisme. C'est la première période.
Disons très dense, oui.
D'ailleurs, je pense honnêtement que c'est une republication. Parce que quand on ouvre l'album, on a justement le Giraud qui vient après. C'est presque du Moebius.
Oui. Il y a une magnifique double page, effectivement, sur le contreplat supérieur et la première page de garde. Et oui, ce sont les termes techniques du monde du livre. Et oui, c'est-à-dire, bon, on ouvre tout simplement. Hein, et donc, on a une double page qui montre une ville américaine dans un paysage qui est celui qui ressemble le plus, en fait, aux caractéristiques géomorphologiques et géologiques du Grand Canyon. À savoir...
C'est beau quand je t'écoute.
Oui, tout à fait. Donc oui, en fait, la série Blueberry a 54 ans. Ouais. Elle est née en 1963, il y a 28 albums. Mm-hmm. Voilà. Donc celui-ci, L'Aigle solitaire, comme tu dis, c'est la première période puisque c'est le troisième album.
Voilà.
Et il date
et ce qui est intéressant, c'est... Mm-hmm. Excuse-moi.
Oh, non, mais je t'en prie.
C'est que Giro a travaillé avec JG.
Oui.
JG qui avait créé Jerry Spring. Que je n'ai pas réussi à trouver cette fois.
Oui.
C'est complètement épuisé.
Mais il faudrait aller à Angoulême ou à Marseille. Tu sais, à Marseille, à la bibliothèque municipale à vocation régionale. Oui, c'est ça. Donc, non, ce n'est pas ça, Jean-Marc. C'est tout simplement la bibliothèque de l'Alcazar qui possède un des deux plus beaux fonds de bande dessinée.
D'accord.
Voilà. Donc là, il est possible de le consulter.
Vous trouverez ça sur le site. Hein. Oui, voilà. Alors, que dire de ce Blueberry ?
La couverture est absolument magnifique. Hein.
C'est
une peinture. Et en plus, on voit une forme de monogramme, c'est-à-dire les trois premières lettres de Giro, donc G-I-R, voilà, encadré, un peu comme si il s'agissait du monogramme d'Albrecht Dürer, le grand peintre graveur du XVIe siècle. Mais
ça ressemble
on voit que c'est bien lui qui l'a fait. Oui. Oui. Donc.
Par contre, il n'est pas coloriste à l'origine.
Non.
Donc, je ne sais pas, je me pose des questions sur la couverture. Hein. Je ne suis pas sûr.
À voir, effectivement, à l'intérieur de l'album pour savoir si c'est bien lui qui a fait la colorisation. Puisque, en fait, quand on ouvre sur la page de titre, on voit donc le nom de la personne qui a fait cette colorisation.
Oui, c'est Madame Blanc-Dumont.
Oui, Claudine Blanc-Dumont. Effectivement, voilà, avec un portrait en buste.
C'est très très beau.
De Blueberry. Alors, qui est Blueberry ?
C'est
Parlons histoire, parlons de l'album en particulier.
Alors,
quel est le personnage
de Blueberry ?
Oui.
Il vient de l'armée d'abord.
Oui, l'armée américaine.
Et après, il va démissionner, il va se sauver.
Oui. Mais en fait, après 15 albums, il est viré de l'armée et devient Mr. Blueberry. Et le personnage évolue de plus en plus vers un anti-héros. Qui effectivement est plein de défauts, abuse de l'alcool, voire de certains hallucinogènes, à tel point d'ailleurs que en fait, le fils de Jean-Michel Charlier a toujours, refusé cette part du personnage en fait, qui a été un peu imposée par.
C'est un peu le côté noir,
oui.
Mais qui est intéressant.
Oui, tout à fait. En fait, au fur et à mesure des albums, le personnage s'est enrichi, est devenu plus complexe. Et là, puisque nous sommes sur le troisième album, on en a encore une vision de héros. En fait, c'est-à-dire, on est surtout dans l'action, donc on a affaire à un homme qui est à la fois impulsif et très intelligent. Mais on n'a pas de temps mort en fait pour développer justement les autres côtés, je dirais plus sombres ou plus complexes du personnage.
D'ailleurs, quand on regarde la couverture, je retourne la couverture.
Aha.
Et on voit
Mr. Blueberry, voilà, qui ne porte plus effectivement l'uniforme. Mais le fameux costume trois pièces avec évidemment la chaîne de la montre, vraiment. Là, il est plus proche de. Enfin, il n'a pas le poncho de Clint Eastwood, mais là, on a évolué, effectivement. On sent que le western italien est passé par là.
Règlement de compte à Occhetto Corral,
oui.
Ou alors, tout le western italien.
Oui, tout à fait, oui.
Et ça, c'est l'évolution des personnages, personnage. Elle est très intéressante. Après, malheureusement, après Giroud, ça a été repris par d'autres.
Oui.
Moi, personnellement, ça m'intéresse. Moins.
Oui, mais toi, tu es amoureux de Moebius, car Jean Giraud, c'est Moebius.
Hey, c'est le même.
Oui, c'est le même.
Oui, c'est marrant,
quand il a commencé à grimper dans l'espace, il s'est fait appeler Moebius.
Tout à fait, quand il a commencé à faire de la SF.
Oui, le garage. Comment ça s'appelait déjà dans Métal Hurlant ? Le garage ?
Hermétique.
Hermétique, voilà.
On ne va pas me prendre là-dessus. Hein.
Non.
Un grand monsieur, Moebius.
Donc, quelle est l'histoire de cet album en particulier ? Pourquoi ça s'appelle Aigle solitaire ?
Alors, l'aigle solitaire, c'est un Indien.
Oui.
Alors, moi, au début, quand j'ai regardé la couverture, j'ai confondu avec...
Geronimo, c'est
Geronimo.
Avec son fameux bandeau rouge.
Voilà. Donc, ce qui m'a un petit peu disturbé. C'est français, ça.
Non. Disturb. I was disturbed. I was upset.
Voilà. Et donc, l'aigle solitaire, c'est... un Indien contre lequel devra s'affronter Blueberry.
Oui, voilà.
Mais pour lequel il va finalement avoir pas mal de respect.
Mm-hmm. Oui.
Oui, non ?
Je ne suis pas tout à fait d'accord. Oui, en fait, on est en quelque sorte... Parce qu'il y a un côté un peu feuilletonesque en fait, dans cette histoire. C'est qu'on poursuit une histoire, je dirais, d'ordre politique sur les problèmes de frontières entre, d'un côté, les États-Unis et le Mexique. Et en fait, on est dans un cadre politique très particulier où, évidemment, comment dire, des guerres d'indépendance s'articulent les unes aux autres. Entre, d'un côté, effectivement, le Mexique, de l'autre, les États-Unis et les revendications de territoire des Indiens. Et donc là, en fait, Blueberry essaye, enfin, est non seulement un soldat, un homme d'action qui doit mener des troupes, et là en particulier, donc, encadrer un convoi de munitions qui sont évidemment fortement convoitées par des rebelles indiens, mais il doit aussi mener une enquête sur la part que prend donc des activistes mexicains à cette guerre des Américains contre les Indiens pour pouvoir en quelque sorte faire accuser les Indiens de méfaits que eux commettent au niveau de la frontière. Donc Blueberry a mené une enquête dans un album précédent et ici donc il se voit confier donc le convoiement de chariots de munitions. Évidemment, il va arriver comment dire, au fort qui est son objectif, avec quand même pas mal de pertes en chemin, avec beaucoup de péripéties. Mais l'histoire continue à la fin de l'album. C'est-à-dire que bon, là, c'est un épisode parmi toute une série de péripéties. Mmh. Voilà, c'est exactement ça, c'est à suivre.
C'est quand même bizarre qu'à l'époque, personne n'ait pensé de construire un mur entre le Mexique et l'Amérique.
Oui, c'est fou, c'est, ça, c'est fou.
Il fallait attendre Donald.
Oui, voilà. Heureusement, Donald a été élu pour régler ce problème.
Bravo, Michel.
Oui, ceci dit, il y a déjà un mur, mais bon, Donald aimerait qu'il soit encore plus important, encore plus, encore plus long. Encore
non,
plus,
c'est encore plus. Si on s'intéresse au personnage de Blueberry, c'est la première période, je le répète, et c'est quand même, c'est très fouillé au niveau du détail, et c'est très serré.
Oui, c'est
pour
très
moi,
dense.
C'est presque trop dense. Après, il s'est éclairci un petit peu.
Oui. C'était l'époque où je pense que voilà, il n'y avait pas de concurrence d'internet. On était quand on était plongé dans une bande dessinée, on était plongé dedans assez intensément. Mmh. Et donc, je dis pas que la bande dessinée c'est moins bien maintenant. Hein, c'est différent. Mais en tous les cas, oui, on était sur encore une fois la forte présence du gaufrier avec beaucoup de cases. Des cases de petite taille.
D'âne.
Oui, voilà, j'adore ce terme, donc je le ressors continuellement. Et donc, effectivement, les cases sont nombreuses, à l'intérieur desquelles le dessin est très détaillé, minutieux, de petite taille. Voilà, et nous qui sommes maintenant habitués, puisque nous sommes dans une société d'écran, soit des petits écrans, soit des écrans très larges, et de plus en plus larges quand il s'agit de la télévision, eh bien, on est habitués du côté de la BD à des mises en page qui sont beaucoup plus aérées, voire carrément aériennes, voire de plus en plus en fait de pleine page, voire de pleine double page. Voilà. Donc là, c'est effectivement, comme tu l'as dit, hein, l'influence franco-belge qui fait que la BD, c'est de la case. Voilà,
c'est de la case.
Moi je te le dis.
C'est de la classe aussi.
C'est de la classe. Quelle classe cette case. Donc, oui.
Non, mais c'est un album, c'est bien de se replonger un petit peu la nostalgie.
Tout à fait, mais figure-toi que c'est Jean Giraud qui a trouvé le nom du héros. Et le nom du héros, ça veut dire quoi, toi, l'anglophile?
Une
baie de couleur bleue. Voilà, c'est une myrtille. Ah, bravo, Jean-Marc.
Donc c'est Blueberry. C'est quand on sait ce que c'est, c'est un petit peu.
Oui, c'est drôle. C'est là où, si tu veux, tu t'aperçois que c'est un peu du Magritte d'une certaine façon, c'est-à-dire que
en fait, ceci n'est pas une myrtille.
Ceci n'est pas une myrtille. Voilà.
Non, parce que Blueberry en français, ça fait quand même assez macho, quoi.
Ouais. Blueberry, ouais,
quand
tout à fait.
Quand on dit myrtille, bon.
Oui, oui, tout à fait.
C'est pas la même chose.
Non, mais il y a de nombreux noms comme ça anglo-saxons qui, lorsque tu les traduis, en fait,
Oui, voilà. on pourrait parler longtemps de ça, parce que quand on traduit les chansons anglo-saxonnes, quelquefois, c'est décevant.
Oui, mais en fait, c'est ça, c'est le propre de cette langue qui est tout en sonorité, en fait.
Exactement.
Voilà. Et donc,
Scansion, en sonorité.
Oui, tout à fait. Tandis que nous, en français, il faut qu'on fasse de la poésie pour qu'on puisse remarquer toute la puissance de la sonorité de la langue française.
On fait des vers, on en aura l'air.
Oui, voilà. Ouf. Très bien. Donc, peux-tu redonner, en fait, j'allais dire, les coordonnées de 06 de l'album
06 d'Argo.
Oui, voilà, exactement. Donc, Blueberry.
C'est un bel album et puis c'est un classique quand même.
L'Aigle solitaire, donc chez d'Argo.
Voilà,
donc que l'on retrouve très facilement dans les librairies, dans les bibliothèques,
il y a des
parce
stocks
que la
encore.
Série Blueberry. Mais oui, la série Blueberry est une série très appréciée du public.
Comme Tintin.
Oui, comme Tintin, comme Largo Winch.
Comme Spirou. Là, on ne parle pas de Largo Winch. Hein.
Bon, d'accord, très bien. Bon, bah alors on ne parle pas de Largo Winch.
Non, mais le nouvel album vient de sortir.
Oui, tout à fait.
Mais bon.
Et maintenant, nous allons passer à Blackface. Nous allons donc parler d'un album Blackface. Ah, je suis désolée, excuse-moi Jean-Marc. J'ai démarré sur les chapeaux de roue et je t'ai laissé derrière moi.
Freebird.
Sur la sur la voie d'autoroute.
Merci.
Donc remonte dans la voiture, Jean-Marc.
Je suis abandonné.
Voilà.
Lynyrd Skynyrd, c'était un groupe un petit peu sudiste et puis un petit peu raciste.
Ah bon ? Ah, sympa ! Bon choix. C'est-à-dire, c'est un groupe américain ? Parle-nous d'eux.
Très américain. Ouais.
Très américain, oui.
Bon, ils ont pas eu de chance, ils sont tous morts dans un crash d'avion.
Ah,
dans
d'accord.
Dans les années 77.
Ah, oui. D'accord.
À peu près.
D'accord.
Et non, le lien n'était pas choisi, j'ai pas fait exprès. Ça nous amène vers les Tuniques Bleues.
Oui, le numéro 20, l'album numéro 20.
Voilà.
Oui. Alors, je peux donner des chiffres ? Allez, laisse-moi donner des chiffres.
Chiffres,
c'est parti. Alors, donc, cette série existe depuis 49 ans, puisqu'elle est née en 1968, qu'elle se compose de 60 albums, que nous sommes dans le premier tiers parce que nous sommes à l'album numéro 20. Voilà. Donc, en fait, les créateurs sont Raoul Covin pour les scénarios. C'est un homme qui est peu connu, mais qui a écrit énormément, en fait, de scénarios, notamment donc, dans la revue Spirou, Voilà, il est encore en vie, il a 79 ans. Il a vendu 40 millions d'albums. Voilà. Quant au dessinateur, c'est Louis Salverius. Mais Louis Salverius est mort très jeune, à 38 ans, en 1972. Et c'est donc Lambille, donc Willy Lambille, qui le remplace au dessin. Voilà.
Ça ne change pas grand-chose au style. Alors, pourquoi on a choisi les tuniques bleues?
Oui.
Parce qu'on est dans le western, donc il fallait qu'on tape un peu tous les
côtés. C'est vrai que la guerre de sécession est un sujet qui est vraiment très fort. Autant Blueberry, en fait, il s'agit de l'armée américaine après la guerre de sécession, autant là, on remonte un peu dans le temps, on est en pleine guerre de sécession.
Ceci dit, c'est une série d'humour.
Oui, voilà. Ah oui, 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 tout à fait. C'est drôle, la guerre de sécession, on ne sait pas toujours, mais qu'est-ce qu'on rit? Voilà.
Ah, c'est un sacré coton. Ouh, elle est forte, celle-là.
Ouais, elle est forte. Elle est... En fait, oui, c'est une façon de pouvoir, justement, pour le scénariste, comme je le disais, Raoul Covin, placer vraiment en fait, une analyse, d'ailleurs assez poussée, hein, sur la guerre de sécession, sur, les intérêts en jeu entre le Nord et le Sud, qui sont des intérêts économiques et des intérêts politiques, et de se dire que finalement l'esclavage, même s'il y a derrière ça effectivement un désir de voir évoluer la civilisation américaine, hein, exprimé par Abraham Lincoln, qui a pris le risque d'engager cette guerre...
Ça lui a coûté cher.
Oui, y a... voilà, exactement. Sachant que je fais là donc un rappel concernant le film de Spielberg, hein, qui porte le nom de Lincoln, qui justement traite de ce moment où il fait le choix d'abolir l'esclavage, quitte à entrer en guerre avec les États du Sud. Et donc ici, en fait, le propos est vraiment très sérieux. Il y a une analyse politique de la situation et le fait que effectivement, la condition noire américaine, un prétexte à un affrontement entre deux puissances économiques. Et on peut bien effectivement se rendre compte que ça a amené effectivement une partie de la population noire à des actes, extrêmes de rejetant en fait tout le système blanc qui consiste à se servir d'eux. En fait, encore une fois, qu'ils soient esclaves ou pas, mais à se servir d'eux continuellement dans une société dominée par les Blancs.
Tout à fait. Quand on se rappelle, je reviens un peu à ce que tu viens de dire, le Sud, l'Amérique du... Enfin, le Sud de l'Amérique, pardon, je ne vais pas dire l'Amérique du Sud, parce qu'on va plus comprendre. C'est le coton,
sud des États-Unis,
c'est
les grandes plantations, oui.
Etc. Mmh. Et où on emploie énormément de Noirs.
Oui.
Et l'Amérique du Nord...
Où on exploite, je dirais, énormément de Noirs, parce qu'employés... oui, j'aime bien t'embêter, Jean-Marc, sur les termes. Ils sont peu employés. Hein, c'est...
Alors
ils ont un super salaire.
Le Nord d'Amérique, c'est le début
salaire
de
en coup de fouet.
L'industrialisation.
Oui.
On va dire ça comme ça.
Oui.
Donc c'est le choc de deux cultures.
Oui. Mmh. Mmh.
Et d'industries qui sont complètement différentes.
Mmh.
Et ce qui explique bien la guerre de sécession.
Oui.
Ouais, c'est une petite parenthèse historique.
Oui, voilà.
Je voulais préciser.
Alors, dans cet
pardon.
Album, nous avons donc en particulier, puisqu'il s'appelle Blackface, la révolte d'un ancien esclave noir qui est en fait affranchi par l'Union, c'est-à-dire par les États du Nord, se retrouve dans l'armée de l'Union et finalement est utilisé pour les travaux les plus rebutants qui consistent à creuser les latrines ou encore enterrer les morts. Et
ouais, donc, c'est ce qu'on voit sur les couvertures.
Oui, tout à fait. Et donc, cet ancien esclave se rebelle contre finalement tout le système de pensée blanc qui consiste finalement à continuer l'exploitation sous une autre forme, l'exploitation de son peuple, et pousse en fait au fur et à mesure qu'il rentre avec l'armée de l'Union dans les territoires du Sud, donc pousse la population noire à se révolter et donc commettre des pillages des meurtres à l'égard des grandes familles de planteurs du Sud, c'est-à-dire brûler les grandes maisons, brûler les plantations, tuer les Blancs. Voilà. Et donc les deux personnages principaux qu'on retrouve continuellement dans les tuniques bleues, donc ces deux soldats de l'armée de l'Union, se trouvent en fait à jouer un peu un rôle d'espion, c'est-à-dire doivent prendre deux identités différentes, c'est-à-dire l'identité de deux soldats de l'Union des États du Sud. et d'autre part l'identité de médecin pour pouvoir arriver à pousser les Noirs à la révolte, mais ils sont complètement dépassés par les événements. C'est-à-dire qu'en fait, ils vont se rendre compte qu'ils sont allés beaucoup trop loin et qu'ils ont au contraire favorisé en fait, les massacres d'innocents.
Mais ils sont, si on replonge dans l'album, ils sont mandatés par qui ?
Ils sont mandatés par leurs officiers. Qui eux-mêmes sont mandatés évidemment par le gouvernement de l'Union.
On remonte au gouvernement.
Voilà, exactement, oui. Donc encore une fois, ils sont les instruments de la politique.
Ils sont
des pions.
Bêtes, hein.
Ce sont des pions. Après, encore une fois, comme ça se veut finalement un propos assez pédagogique, éducatif, mais aussi militant, c'est-à-dire antimilitariste, eh bien, pour pouvoir faire passer la pilule, qui est quand même assez amère, en fait, le scénariste choisit quand même un peu de légèreté avec, comme tu le disais, de l'humour. Mmh. Voilà, donc il y a des moments qui, effectivement, sont assez drôles, alors que le fond est complètement dramatique.
Et cet album en particulier, ça fait penser au mouvement
oui,
noir.
Des Black Panthers, oui, tout à fait, oui. Oui, oui.
Je pensais à Malcolm X, comme ça, les Black Panthers,
oui.
Même le pasteur Martin Luther King.
Mm-hmm. Dans une version évidemment violente.
Donc c'est assez marrant quoi, cet album.
Mm-hmm. Oui.
Mais ça ramène des choses un peu plus violentes.
Oui.
Et puis plus réel.
Bah, disons que c'est aussi un album qui correspond à une époque de la bande dessinée où il y avait. Ça existe encore maintenant sous une autre forme à travers des revues comme la revue de bande dessinée où on tient des propos sur l'actualité. Mais là, on est à une époque où on peut tenir des propos sérieux aux jeunes, puisque en fait, les Tuniques Bleues s'adressent à un public plutôt adolescent.
Ouais,
parce qu'on est, on est effectivement sur un style graphique qui n'est pas sans rappeler un peu Lucky Luke.
Et puis, c'est la même école. Hein,
oui, enfin. Voilà, exactement. C'est-à-dire, il y a des. Les côtés les plus dramatiques sont traités avec un certain réalisme, mais par contre, les personnages comiques tendent, d'un point de vue stylistique, en fait, à être plutôt dans la caricature. Voilà. Sans que ce soit trop appuyé. On n'est pas non plus dans Lucky Luke.
Moi, quand je regarde les deux personnages qui sont sur les couvertures, ça fait un peu Boule et Bill.
Oui. Oui, il y a c'est ça, c'est-à-dire la petite bouille ronde, ce qui est dessiné en très peu de traits. Voilà. Mm-hmm. Exactement. Alors que le personnage principal qui leur fait face sur la couverture, à savoir Blackface,
c'est
lui,
très
par contre,
précis.
Oui, voilà, a un traitement qui est plutôt réaliste. Quand on regarde
et on voit sur la couverture qu'il a son pantalon de l'armée américaine.
Oui, tout à fait, avec la bande jaune, oui, de l'armée, parce que lui aussi, oui.
Mm-hmm. La bande jaune, c'est celle qu'il faut pas franchir.
Voilà, exactement.
Non,
oui, oui.
La
ligne blanche, plutôt.
Oh, la ligne rouge. Hein.
Oui, la ligne rouge ou la ligne verte, si on a envie de pousser plus loin dans les références cinématographiques.
On va au cinéma.
Oui, exactement. Mm-hmm.
Voilà. Donc il y a énormément. Je regarde la liste des albums.
Oui.
Alors là, il y en a 59. Il y en a un autre qui est sorti.
Peut-être. Sans doute,
je ne sais pas.
Mm-hmm.
Mais,
60 albums, oui.
Voilà. C'est une belle réussite. Ils sont pas. On n'en parle pas énormément des Tuniques Bleues.
Non, mais en même temps, c'est connu. C'est évidemment une série qui a toujours du succès. Oui.
Mm-hmm. Et sinon, on n'en parlerait pas.
Non, sinon, on n'en parlerait pas. Oui.
Bon,
Donc rappelle-nous donc.
Oui,
l'album.
D'accord. C'est chez Dupuis.
Voilà.
Ça
Tunic
s'appelle
Bleu, l'album
Blackface.
Blackface.
Ça, c'est de l'anglais. Alors, je traduis. C'est tête noire.
Oui.
C'était un dessert que faisait ma grand-mère. Mm-hmm. Bon, ça rien
à
voir.
Oui.
Et voilà, de William Willy.
Oui.
Et Lambil et de Raoul Covin.
Oui.
Voilà. C'est vachement bon la tête noire.
C'est fait comment?
Oh, je t'expliquerai.
D'accord, ok.
Everybody's going out and having fun. I'm just a fool for staying home, having none. I can't get over how she set me free. Bad
mistake I'm making by just hanging round. I know that I should have some fun, paint the town. I love sick fool of blood and just can't see. I'll bet she's not like me. She's out fancy free. She's flirting with the boys with all her charm. I still love her so. And brother, don't you know, I'd welcome her right back here in my arms. Well, there must be some way I can lose these lonesome blues, get about the past and find somebody new. I thought of everything from A to Z.
Ils auraient tous reconnu Don Gibson, star de la country, américaine. C'est pour ça qu'on est toujours dans le western.
Yes.
Je le dis avec l'accent.
Oui.
Western.
L'accent de Manchester. UK. Non.
Let's go.
Oui.
Now to Lucky Luke. Mm-hmm. Alors,
Lucky
c'est
Luke.
Un héros bien belge français.
Oui, il est belge.
Français.
Oui, tout à fait.
Mm-hmm. Et là.
Une bonne vieille série.
C'était normal, en parlant de western, de faire un petit hommage à Lucky Luke.
Ah ben, c'est incontournable.
Voilà.
Incontournable.
À l'époque, il fume toujours la cigarette. Hein. J'ai
oui,
vu sur,
tout à fait.
Mm-hmm. La couverture de l'album.
Exactement.
Maintenant, c'est interdit. Hein.
Mm-hmm.
Grâce aux Américains.
Oui, oui. Parce grâce à la loi Evin aussi.
Oui, mais le dessin animé Lucky Luke a été exporté aux États-Unis.
Mm-hmm.
Et maintenant, comme on le voit sur.
Oui, parce qu'en
la
fait, nous n'avons
page,
pas l'édition originale. Hein. C'est un des
c'est
premiers albums.
C'est encore
l'édition.
Ouais.
Oui. Mm-hmm.
Et donc, il a un morceau de paille dans la bouche. Ouais, c'est tout.
Bah, en fait, Lucky Luke, parce que nous sommes sur de vieilles séries, hein, on a commencé par une série. Donc, qui avait 54
vintage,
ans,
hein,
puis ensuite voilà. 49 ans. Maintenant, nous sommes sur une série qui a 71 ans. Elle est née en 1946. Voilà, donc premier album publié dans Spirou. Mm-hmm. Donc, chez Dupuis. Puis ensuite, de Dupuis, en fait, Lucky Luke est passé à Dargo. Et aujourd'hui, nous sommes sur une édition Lucky Comics. Voilà. Et donc,
c'est
nous
lui
voyons,
qui a racheté la maison.
Nous voyons donc sur le bandeau du titre Jesse James, Lucky Luke, effectivement, comme tu disais, avec non plus la cigarette, mais le petit une brindille donc dans la bouche pour remplacer la cigarette. Donc cet album date de 1969. Il est paru, il est préparu dans Pilote.
Quelle année ?
1969. Jean-Marc, il me fait répéter, moi, naïvement, 1969.
Donc, année érotique.
Oui, voilà, année érotique d'un certain, n'est-ce pas, Serge Gainsbourg, chanté avec Jane Birkin. Donc, Jesse James. Alors, Jesse James, c'est un bandit de grand chemin qui, en fait, avait pour particularité d'avoir réussi à faire croire qu'il était, en quelque sorte, un Robin des Bois du western, alors qu'en fait, ça n'était pas du tout le cas. Et ce qui est très intéressant, c'est que cette histoire qui est vraiment dessinée par Maurice et écrite par un certain Goscinny est vraiment tout à fait inspirée de données historiques et de documents qui montrent bien justement que en fait ce monsieur est un gros arnaqueur en termes d'image de légende de l'Ouest américain. En fait, c'est ni plus ni moins que quelqu'un qui vole aux riches pour se donner à lui
voilà.
Et non aux pauvres. Quoique, effectivement...
Ce qui impressionne les pauvres, c'est qu'ils volent aux
en
riches.
En fait, oui, voilà. Il revendique le fait de voler aux riches. Et en plus, il lui arrive... Alors ça, c'est très drôle, puisque c'est expliqué dans l'annexe en fait, de cet album. Il lui arrive donc de dépouiller... des personnes par exemple des personnes qui allaient chercher les créances d'une ferme En fait, il comprend le circuit de l'argent. En fait, c'est quelqu'un qui comprend le circuit de l'argent, c'est-à-dire qu'en fait, il va donner à une femme les 500 dollars dont elle a besoin pour pouvoir justement payer les crédits de sa ferme, payer sa ferme. Elle donne donc, grâce à l'argent que lui a donné Jesse James, donc cet argent en fait à la banque pour pouvoir avoir sa ferme à elle. Et en fait, Jesse James, lui, cambriole la banque dans laquelle se trouve l'argent qu'il avait remis en fait à cette femme.
D'accord.
C'est extraordinaire, vraiment extraordinaire.
C'est quand même un personnage qui existait.
Oui, tout à fait. Et qui a été tué par un membre de sa bande. Et d'ailleurs, il y a donc un film qui est très beau avec Brad Pitt et donc le frère de Ben Affleck, Casey Affleck, qui s'appelle L'histoire du lâche. Je suis vraiment désolée pour nos auditeurs, je ne me souviens plus exactement du titre. Mais donc, il a été tué donc par un membre de sa bande. En fait, j'ai ouvert l'album, je suis en train de regarder dedans, où est-ce que je peux repérer cette expression? Oui, Bob Ford, donc voilà. Et donc, il a une épitaphe, donc il est abattu d'une balle dans la nuque par un membre de sa propre bande, Bob Ford, qui est surnommé depuis Dirty Little Coward, donc sale petit couard, dans une chanson qui est dédiée à Jesse James, voilà. Mais évidemment, comme sa tête avait été mise à prix, donc Bob Ford a récolté la modique somme à l'époque de 10 000 dollars, ce qui est assez considérable.
Oui, c'est pas mal. Ouais.
Donc Jesse James est mort le 3 avril 1882. Il n'avait que 34 ans.
Et c'est
parce pas
que
bon, quand on fait
blague,
ce métier, on ne dure pas très très longtemps. Voilà. Donc qu'est-ce que nous raconte cet album?
Ah ben c'est la rencontre de deux personnages qui.
Oui.
À un moment, devait se croiser.
Oui, forcément. Donc, Lucky Luke, qui en fait est un chevalier solitaire, mais aide régulièrement la police. Donc, en fait, Lucky Luke, comme on le sait, est celui
Batman,
qui régule l'ordre. Voilà. Et Jesse James, qui a commis donc beaucoup de vols en fait avec son frère et avec un cousin, donc se rend au Texas. Or, il n'est pas recherché au Texas. Donc, en fait, les policiers ne peuvent pas, puisque on est dans une fédération d'États en fait aux États-Unis, ils ne peuvent pas venir au Texas l'arrêter. Donc, ils vont rencontrer Lucky Luke en lui disant voilà, Jesse James va entrer au Texas, il faut donc il faut que vous le rameniez en Arkansas pour que nous on puisse l'arrêter. Et donc la mission de Lucky Luke est double, donc en fait il faut qu'il repousse en fait Jesse James donc hors du Texas, et il faut que si Jesse James sévit au Texas par des déraillements de train, par des cambriolages de banque, donc il faut qu'il fasse en sorte de pouvoir l'arrêter. Voilà. Et donc, ce qui est très intéressant dans cet album, c'est que tout le scénario est fondé sur la façon dont une petite ville va réagir à la présence de cet homme, Jesse James, qui a la réputation d'être quand même quelqu'un de très violent et qui fait peur. Voilà, donc c'est la façon dont cette petite ville va, dans un premier temps, se montrer extrêmement lâche et dans un deuxième temps, ayant trahi Lucky Luke, en fait, décider de se prendre elle-même en main pour pouvoir justement arrêter Jesse James. En aidant Lucky Luke. Et en fait, c'est toute une série, évidemment, Goscinny est au scénario, hein, c'est toute une série de gags, il y en a quasiment un par case ou presque, ou deux, trois par planche. Et l'album, l'histoire est très bien construite. Voilà.
Donc Jean-Marc. C'est un grand classique.
Oui. Oui, tout à fait. Donc, Lucky Luke, l'homme qui tire plus vite que son ombre, avec évidemment, sur la quatrième de couve, ce très célèbre dessin où on le voit dégainer, en fait, face à son ombre, et évidemment, tirer plus vite qu'elle.
Ça, c'est...
C'est une idée géniale.
C'est complètement génial, et ça restera dans les mémoires collectives.
Oui, tout à fait. Et c'est Goscinny qui a eu l'idée de cette chanson qu'il chante à la fin de chaque album. Un peu comme le banquet d'Astérix.
Poor lonesome cowboy.
Yes.
Mm-hmm. Et ça se termine toujours comme ça. Je vérifie,
oui, tout à fait. Mais... Oui, il part, effectivement.
Voilà, et c'est marqué fin.
Oui, tout à fait. Donc, en fait, Lucky Luke est complètement inspiré à la fois du western, du cinéma, et étant donné que Maurice a travaillé dans un studio d'animation, le style graphique est complètement inspiré du dessin animé. Donc, il y a un côté très frénétique, il y a un usage des couleurs qui fait que certaines actions sont complètement amplifiées par des gros aplats qui marquent des temps très particuliers, en fait, pour renforcer un gag, marquer une action. Enfin, c'est vraiment très fort en termes de maîtrise du tempo, à la fois sur le scénario et du graphisme.
Là, j'ai ouvert par hasard
c'est très stylisé.
Une page. Le fond du décor, il est complètement stylisé.
Oui, en fait, on n'a que la silhouette.
On n'a que la silhouette.
Oui, on n'a que la silhouette, en
Par
fait,
contre,
de l'arrière-plan.
Les personnes sont vraiment bien dessinées.
Oui, dans le moindre détail, ce qui permet toutes de les caractériser, avec en plus un suivi, si on devait faire un peu dans le côté obsessionnel, compulsif du script qui vérifie, en fait, on se rend compte qu'il n'oublie rien. Chaque personnage est vraiment dessiné avec tous ses attributs dans le moindre détail, et c'est vraiment très
dans
bien fait.
Dans le moindre détail, c'est un grand mot.
Si. Donc on peut avoir par exemple un premier plan où on a des personnages qui sont dessinés dans le moindre détail, qui sont tous colorisés. En fait, il a une façon d'alterner d'un côté des moments qui sont réalistes et de l'autre des moments où par le traitement des couleurs, en fait, il va effectivement amplifier certains aspects de l'action.
Mais en même temps, on peut se dire que chaque fois qu'on voit un personnage, on peut socialement
Le situer. Oui, oui tout à fait.
On voit le gros banquier. Enfin,
oui. Moi, par exemple, j'aime beaucoup le personnage du vieux en fauteuil roulant qui revient régulièrement. Et notamment, il y a un moment donné où la ville se rebelle entièrement contre Jesse James, parce que donc elle culpabilise, elle a abandonné Lucky Luke, parce qu'elle avait peur en fait pour elle, et elle a préféré finalement céder lâchement à Jesse James, et se repentant, la ville décide donc de se révolter contre Jesse James, et tout le monde se précipite à la poursuite de Jesse James à cheval, y compris le vieillard en fauteuil roulant. Et il y a un plan qui est vraiment absolument génial, qui est évidemment le plan très classique dans le western, c'est l'arrivée de Jesse James en ville avec ses complices, et en fait ils sont accueillis par la population qui leur tire dessus, y compris le vieillard, et quand enfin Jesse James s'enfuit de la ville et qu'il est poursuivi par les habitants, le vieillard lui saute d'une fenêtre dans son fauteuil roulant au même titre que les autres habitants qui sautent sur leur cheval, sur leurs chevaux, pardon.
Sur son cheval.
Voilà, exactement. Oui. Ah non, c'est truculent. Allez, sortons un vieux mot du dictionnaire.
Oui, c'est truculent.
Oui, c'est truculent.
Non, mais
c'est vivant, c'est rythmé. Puis, c'est merveilleux. Lucky Luke, c'est merveilleux.
C'est vintage aussi. Maintenant. Les derniers Lucky Luke.
Non, le vintage, c'est quand même très marqué par le style des années 50. C'est très marqué par la culture de la publicité américaine des années 50. Je suis désolée, Jean-Marc. Je ne suis pas d'accord.
Je m'excuse.
Oui, Jean-Marc, tu retires ce mot immédiatement.
Oui,
ce n'est pas vintage.
Je retire ce mot immédiatement.
Voilà, si tu tiens à la vie.
Non, je pensais aux successeurs qui ont repris Lucky Luke. C'est quand même.
C'est plus plat, disons, oui.
Ouais,
c'est bien pensant, tandis que là, c'est drôle.
On a un ami qui habite pas loin, qui fait les scénarios du Lucky Luke. Hein.
Ah, d'accord.
Laurent
Gérard.
Oui,
Laurent Gérard, c'est vrai. Ah, mais c'est vrai. J'ai pas donné, effectivement.
Parce qu'il a fait mieux. Mais
j'ai pas donné de renseignements. Oui, alors il y a eu, effectivement, après la mort de Goscinny.
Il en a fait deux ou trois, je crois,
oui.
Laurent Gérard.
Ben, Goscinny a fait donc, les albums numéro 9 à numéro 46. Et après, il y a eu beaucoup de scénaristes. C'est-à-dire que Maurice est resté jusqu'à sa mort. Et puis, quoi qu'il avait été remplacé par d'autres dessinateurs. Mais plusieurs scénaristes, dont effectivement Laurent Gérard sur 4 albums et Daniel Pénac
et même,
oui
hein.
Voilà
ah ouais.
Exactement oui
à quand Wilbeck
oui tout à fait. Ça je serais curieuse de voir ça. Voilà donc
eh ben,
Lucky Luke, Jesse
ouais,
James
voilà,
chez Lucky Comics
relisez Lucky Luke il y en a assez à lire.
On ne s'en lasse pas.
Jesse James
on ne s'en lasse pas. Oui
On va écouter un petit peu de musique.
Oui.
If I see you tomorrow on some street in town, pardon me if I don't say hello. I belong to another. It wouldn't look so good to know someone I'm not supposed to know. Just walk on by, wait on the corner. I love you, but we're strangers when we meet. Just walk on by, wait on the corner.
I love you, but we're strangers when we meet. In a dimly lit corner at a place outside of town, tonight we'll try to say goodbye again. But I know it's not over. I'll call tomorrow night. I can't let you go, so why pretend? Just walk on by. Wait on the corner. I love you, but we're strangers when we meet. Just walk on by. Wait on the corner.
Oui, bah, c'était Walk On By par Leroy Van Dyke. J'espère que vous ne vous êtes pas endormi parce que c'est un peu soporifique.
Disons et que c'est assez répétitif.
C'est une western.
Voilà,
donc,
oui, voilà.
Continue,
là,
on y va
oui,
à fond.
Oui, allez, allez, on est à fond, à donf.
Alors, on parle de quoi maintenant ?
Eh bien, nous allons passer sur une toute autre catégorie d'albums. Un album dont nous avions déjà parlé il y a un certain temps, mais qui mérite qu'on en reparle.
Tout à fait.
Il s'agit donc d'un roman graphique de Mathieu Blanchin et Christian Périssin. Donc, c'est une série dite finie, puisqu'il y a trois albums qui comptent l'histoire d'une certaine Calamity Jane sous le nom Martha Jane Canary. Donc, en trois...
Canary, c'est plus joli que Calamity.
Oui,
hein,
oui, oui, oui.
Au départ.
Au départ, mais à l'arrivée, c'est Calamity qui est resté, en fait, dans ouais. les mémoires. Et c'est donc aux éditions Futuropolis. Voilà.
Belle donc, maison d'édition.
Ah, ben oui, 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 tout à fait. Hein. Belle, très belle maison d'édition. Voilà. Donc, eh bien, c'est l'histoire effectivement de cette légende de l'Ouest, hein. Je veux dire, on a parlé de Jesse James, maintenant on passe à une autre légende, donc Martha Jane Canary, qui donc est morte en 1903 et qui donc a marqué l'histoire de la conquête de l'Ouest, voilà, oui.
Et donc c'est basé, si je ne me trompe pas, sur ses carnets.
Alors en
personnel,
fait,
une partie.
Oui, il est question de lettres qu'elle aurait écrites à sa fille, et donc on a, enfin comment dire, les historiens ont quelques soucis avec ces sources parce que ces lettres avaient été longtemps considérées comme étant ayant été retrouvées dans un coffre, voilà. Enfin bon, ces lettres ont longtemps été considérées comme véridiques, mais en fait elles seraient fausses, voilà. Donc les auteurs dans le premier volume justement expliquent comment ils ont comment dire, à partir de quels documents en fait ils se sont appuyés pour pouvoir justement faire cette reconstitution, sachant qu'ils savent que, enfin qu'ils ont essayé en fait de montrer comment la légende s'est façonnée. C'est-à-dire qu'ils sont à la fois dans une approche qui est réaliste, mais aussi onirique et en même temps fantasmatique. C'est-à-dire comment en fait, à partir du moment où dans la conquête de l'Ouest, la civilisation s'est installé au fur et à mesure des décennies, eh bien, en fait, la légende de l'Ouest s'est construite. Et elle s'est construite à partir de spectacles qui avaient lieu, des spectacles de cirque qui avaient lieu dans les villes, et aussi à partir de chroniques écrites par des journalistes qui, en fait, façonnaient l'histoire de cette conquête américaine, cette histoire de ce qu'on appelle la frontière. Voulait absolument mettre la main sur des personnages très particuliers pour pouvoir justement écrire cette histoire qui est effectivement en partie fantasmée. Donc Calamity Jane, comme elle a été éclaireuse en fait de l'armée américaine, eh bien elle a été très vite repérée par des journalistes qui l'ont photographiée, qui ont raconté ses exploits. Elle est devenue extrêmement célèbre dans la mesure où à chaque fois qu'elle allait dans une ville, en fait son arrivée était annoncée. Voilà, donc c'était une célébrité, c'était en quelque sorte entre guillemets la Beyoncé de l'époque. J'exagère un peu, mais très légèrement, évidemment. Et donc, elle a fini sa vie donc un peu oubliée, donc évidemment sujette à l'alcoolisme, et puis ayant mené une vie quand même assez difficile. Donc, elle est décédée en 1903. Voilà. Alors, on en avait un petit peu parlé. On avait parlé effectivement des caractéristiques de cette personne, hein, d'avoir été fille de Mormon, fille aînée. Donc, elle devait être chargée de sa famille parce que sa mère était morte, en fait. Et donc, elle a décidé d'abandonner sa famille pour partir finalement toute seule dans la nature. voilà. Et en fait, elle est tombée enceinte et elle a abandonné sa fille. Donc, c'est une femme qui... c'est plutôt les concours de circonstances qui ont voulu qu'elle a été obligée de faire des choix extrêmement difficiles, marqués donc à la fois par le fait d'avoir, par deux abandons en fait, le fait d'avoir laissé ses petits frères et sœurs et son père d'un côté, et de l'autre d'avoir laissé sa fille de l'autre.
Mais c'était je vais exagérer un peu, c'était un garçon manqué un petit peu.
Ah mais oui, tout à fait, puisque au moment où elle quitte sa famille, elle se coupe les cheveux, elle se met dans une tenue d'homme, ouais. elle prend un fusil, elle passe pour un homme, oui, tout à fait. Et dès que en fait on découvre que c'est une femme, elle se retrouve reléguée à des rôles subalternes. Parce que justement, ce qui est très intéressant dans cette bande dessinée, c'est la condition de la femme dans l'Ouest américain. Et en fait, on se rend compte d'une chose, et on en avait parlé dans une émission précédente, c'est que à un moment donné, elle se trouve dans un convoi de colons, et en fait, ces convois de colons transportent des sociétés qui sont des sociétés hiérarchisées. Et donc, les femmes restent dans les chariots, elles sont cantonnées, à des espaces qui sont clos. La condition de la femme, effectivement, est quelque chose de très... d'extrêmement rude, où il y a des castes sociales.
C'est Madame Ingalls dans la petite maison dans la prairie.
La petite maison dans la oui la petite maison dans la prairie, c'est très gentil, voilà, c'est presque
idyllique.
C'est presque idyllique, c'est presque bio, donc c'est presque je pensais à ce mouvement du bien-être au Danemark, je me souviens plus exactement. C'est vraiment l'Ouest américain sauvage, avec des conditions de vie des colons extrêmement difficiles. Voilà.
Ouais, j'aimerais bien revenir, on a déjà parlé
sur le style,
avant, sur le dessin qui est absolument extraordinaire.
Oui.
On a l'impression que c'est pas
griffonné, que c'est un peu un brouillon, mais en fait...
C'est très, très fort, et des nuances de... Alors, 50 nuances de gris.
Voilà, 50 nuances de gris.
Elle était pas mal, c'est...
Oui, bravo, mais, Jean-Marc.
C'est très, très beau.
Oui.
J'ai adoré.
Oui, on est dans des camailleux, effectivement, dans des niveaux de gris extrêmement raffinés,
et,
le sens du détail.
La mise en page s'est faite... Du coup, on n'est pas dans le gaufrier.
Non.
C'est fait à la main. Je trace ces cadres à la main, etc. Mm-hmm. C'est quand même...
Et cette unité de ton, en fait, crée une fluidité qui fait que, en fait, on le lit très rapidement pour ensuite revenir à l'image. C'est-à-dire qu'il est évident que, comme c'est fait à partir des lettres de Calamity Jane à sa fille, on est dans du texte. C'est-à-dire que tout ce qui est légende est écrit en lettres cursives. Ouais, on n'est pas du tout au niveau du lettrage. On est tout le temps en lettres cursives. On n'est pas du tout dans ce lettrage typique de la bande dessinée, donc en majuscule. Et là, non, on est vraiment en cursive. Et en fait, ça ne pose pas de problème. C'est-à-dire qu'il y a vraiment le style qui est choisi est très cohérent. Et en fait, ça facilite complètement la lecture. Et on est,
on rentre
pris
dedans,
très facilement dedans. Oui.
C'est super.
Alors, il y a aussi des parties qui sont beaucoup plus... plus proche en fait du roman, où l'écriture va dominer le dessin, où il y a aussi des présentations historiques pour apporter un cadrage, parce que en fait, et les auteurs y sont très bien parvenus, c'est quand même très difficile de parler de l'intimité d'un personnage dans un cadre historique très particulier qui justement est propre à sa situation, c'est-à-dire la conquête de l'Ouest. En plus de cela, Calamity Jane arpente des territoires, donc fait des allées et venues entre les points en fait dans lesquels s'ancre la civilisation blanche, à savoir les forts. Et donc, elle fait des allées et venues et il faut pouvoir situer justement tous ces allées et venues. Donc, il y a un travail de reconstitution extrêmement minutieux qui est très bien et agréablement communiqué graphiquement à travers la BD. Voilà. Donc, c'est une réussite encore une fois. J'encourage à le lire et à le relire. Donc, en 3 tomes, Martha Jane Canary de Christian Périssin et Mathieu Blanchin.
C'est pas leur prénom.
Voilà. Chez Futuropolis. Il n'y aura eu que l'accordéon, n'importe quoi.
L'accordéon du pauvre.
Oui, l'accordéon du pauvre, l'harmonica. Voilà.
Vous avez tous
l'accordéon étant déjà le piano du pauvre.
Reconnu Ennio Morricone.
Ah, Ennio Morricone.
Pour un
c'est
film
un génie.
Absolument extraordinaire. Oui. Il était une fois.
Dans l'Ouest.
D'accord.
De
pas
Sergio
dans
Leone.
Dans l'Ouest.
Dans l'Ouest, de Sergio Leone.
Voilà. Et tout ça, donc vous avez vu arriver les cow-boys. Là.
Oui, encore et toujours. Et surtout,
et là,
effectivement...
C'est,
oui.
C'est des cow-boys qui sont assez particuliers quand même, hein, oui. Qui viennent de loin.
Qui viennent de loin, oui.
Alors c'est une période... Excuse-moi.
Ah non, mais je t'en prie, Jean-Marc, j'allais encore t'interrompre.
Non, non.
Mais je te laisse parler, je suis sympa.
Ça se passe fin 19e. Hein,
oui, tout à fait.
Aux États-Unis.
Oui, après 1868.
Donc, merci de la précision.
Oui, je t'en prie, mais ce n'est pas sans, sans importance.
Mais... On a une forte immigration chinoise,
oui.
Asiatique,
oui.
Pour plusieurs raisons.
Mm-hmm.
Je me suis renseigné un petit peu quand même.
Bravo.
Voilà, parce qu'il y a la construction du chemin de fer, il y a beaucoup de...
Besoin de main-d'œuvre.
Besoin de main-d'œuvre, etc. Donc les Chinois arrivent en masse.
Mm-hmm.
Et puis là, c'est pas les Chinois, hein, c'est
des
Japonais.
Japonais. Mm-hmm. Et non des moindres.
Et c'est pas des rigolos.
Non.
Alors c'est des guerriers.
Oui,
et,
ce sont de grands guerriers.
Comment de grands guerriers ? Dis-moi, explique-moi.
Bah, ce sont des samouraïs. Les samouraïs
voilà,
sont de grands guerriers.
Des samouraïs.
Oui.
Et après, ils vont être obligés de se reconvertir aux États-Unis.
Alors
et qu'est-ce qu'ils vont faire ?
Alors, tout d'abord, il faut préciser pourquoi ces samouraïs se retrouvent aux États-Unis. Alors, l'Eredo se termine, donc l'Eredo qui a commencé en 1606, se termine en 1868 avec l'ère Meiji. Et l'ère Meiji au Japon, c'est une ère en fait d'occidentalisation extrêmement importante, ainsi que de militarisation de la population. Par conséquent, cette caste sociale qui avait le pouvoir, y compris celui de faire régner l'ordre, donc la caste sociale des samouraïs est donc interdite. Et par conséquent, les samouraïs sont obligés de partir du Japon de se soumettre donc à l'autorité de l'empereur de l'ère Meiji ou sinon, s'ils ne le veulent pas, à partir du Japon. Et donc, ces deux samouraïs partent du Japon, s'installent aux États-Unis. Donc, ils s'établissent comme fermiers dans les Big Horn Mountains, dans le Wyoming. Et qu'est-ce qui va se passer ?
Ah.
Eh bien, ils vont faire la rencontre d'Indiens Oglala.
Ouais.
Et ces Indiens Oglala sont donc des... Comment dire ? C'est une tribu qui fait partie des Sioux, Lakota. Et les Oglala existent toujours. Il y a environ, aujourd'hui, un petit peu
et
plus de 40 000 membres.
Ça touche un petit peu le Canada,
40 000 membres.
Et
40 000 membres.
Je crois.
Peut-être, oui. Oui,
oui
tout à fait.
Pareil.
Ils sont remontés un peu au nord.
Ce
oui.
qui est intéressant au niveau graphique, je m'excuse, je t'ai encore interrompu.
Non, non, je t'en prie, Jean-Marc.
Voilà. C'est très occidental comme graphisme.
Oui, mais ça c'est le propre en fait de Jiro Taniguchi, puisque l'album s'appelle Skyhawk.
Mais je, donc c'est ce que le faucon. Je voulais que tu dises.
Oui, voilà.
Parce qu'on avait parlé d'autres albums de cet auteur.
Mm-hmm, tout à fait.
Et on avait remarqué qu'il avait un style assez européen. Enfin,
tout à fait, il a été très vite marqué par...
L'école belge, c'est lui qui collectionnait...
Oui, tout à fait. Oui, hein, les Tintins.
Non, mais j'ai beaucoup aimé.
Oui, parce qu'en fait, ces samouraïs vont prendre fait et cause.
Ça m'embête de lire à l'envers. Quoi.
C'est oui. C'est vrai qu'effectivement, chez... Alors, cet album donc, de Jiro Taniguchi qui nous a quittés en février 2017, donc il y a quelques mois, donc, qui a fait Quartier Lointain, qui est très connu en France, enfin, qui est vraiment a eu un grand succès en France, Gourmet Solitaire, Le Sommet des Dieux, Terre de Rêve, et donc Skyhawk aussi, est un très très grand mangaka qui a effectivement ce style particulier assez réaliste, marqué par l'école franco-belge et la ligne claire. Et ce manga est sorti en 2002 au Japon et en France en 2009, donc la collection Saka chez Casterman. Donc il comprend 288 pages et effectivement publié dans le style, enfin publié dans le sens de lecture japonais. Voilà. Et c'est l'histoire de ces deux samouraïs qui vont prendre fait et cause pour les Indiens Oglala, à qui ils vont apprendre à résister à l'armée américaine en leur enseignant le jiu-jitsu, qui est l'un des arts martiaux samouraïs, qui signifie de ju qui veut dire souplesse et jitsu qui veut dire art, donc l'art de la souplesse. Voilà. Okay. Donc c'est un art martial qui va être enseigné aux Indiens pour se défendre jusqu'à la fameuse bataille de Little Big Horn, où Custer trouve la mort grâce effectivement au combat mené par Crazy Horse. Donc voilà. Donc c'est une page d'histoire que Taniguchi illustre à travers justement deux personnages.
Il s'approprie Little Big Horn, ce qui est quand même une grande page de l'histoire américaine.
Exactement, oui, tout à fait.
Et la mort de Custer qui a marqué les esprits. Dessiné là-dedans.
Oui.
J'aime bien. Donc il écrit Blade Flesh.
Oui, exactement, oui.
C'est
très onirique. C'est très onirique. Finalement, peut-être, j'ai trouvé que c'était moins fort, moins puissant que Le Sommet des Dieux, mais par contre, c'est extrêmement agréable agréable à lire. Et puis, encore une fois, le style extrêmement clair de Jiro Taniguchi, c'est un beau manga.
Ce qui est marrant, comme d'habitude, je le fais remarquer, c'est que les premières pages
sont en couleur.
Sont en couleur.
Et après, c'est fini. Hein.
Voilà. Plus d'encre.
Non, mais tu sais que c'est le propre de la culture zen. C'est-à-dire, c'est à toi d'intérioriser la couleur.
Waouh!
Oui, c'est très, 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 très fort.
On va rester là-dessus. Parce que là,
on va rester là-dessus,
fort,
c'est la note.
Ça, c'est très fort. On remercie.
Le réseau de lecture publique des médiathèques de la ville de Bourg-en-Bresse. Voilà, exactement. Avec ses belles collections de bandes dessinées. Il suffit de pousser la porte, de s'asseoir et de lire.
Anne, c'est toujours un plaisir.
Jean-Marc, c'est toujours un plaisir. À très bientôt.
Viens, petite fille, dans mon comic strip. Viens faire des bulles, viens faire des...
Whip,
des
clip, crop,
des,
bang,
des,
blanc,
et des...
Zip, shibam, pa, blanc.